Chris Berwoods, bonjour.
Bonjour.
Dans un document publié il y a 2 mois par l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, vous avez écrit que ces 2 jours des 19 et 20 septembre seraient des jours explosifs. Comment le saviez-vous à l'avance ?
Bon, nous savons depuis longtemps que la population attend les élections et la constitution congolaise prescrit que la commission électorale convoque l'électorat 3 mois avant la fin du mandat du président.
Donc les gens savaient que ce lundi et ce mardi, c'était la date limite pour qu'ils soient convoqués dans les délais constitutionnels.
Tout à fait, et ça n'a pas été le cas. Les gens se sont organisés pour exprimer leur mécontentement.
Les graves événements de ces 2 derniers jours nous font penser à ceux de janvier 2015, où plusieurs dizaines de personnes ont été tuées à Kinshasa et Goma. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces 2 événements ?
Oui, une des similitudes importantes semble être la spontanéité des manifestations. C'est comme si la mobilisation ne dépend pas seulement des mots d'ordre de l'opposition ou de la société civile, par exemple.
Depuis le début de l'année, vous vous êtes rendu 3 fois à Kinshasa et vous avez enquêté auprès de plusieurs groupes sociaux. Quelle est l'aspiration la plus profonde des gens que vous avez rencontrés ?
Disons, la première frustration tourne autour des conditions de vie des gens. Les gens vivent dans une pauvreté extrême, le chômage est presque généralisé, il est très difficile de nourrir la famille, donc les gens trouvent qu'ils vivent dans les conditions d'il y a 20 ans, vers la fin du régime Mobutu. Et pour eux, le fait que ça n'a pas changé, pour eux c'est un problème de gouvernance. Et donc, si un président, comme le président actuel, n'est pas capable ou n'a pas la volonté de changer la gouvernance en 16 ans de règne, les gens ne croient plus qu'il va le faire dans sa 17e année. Donc pour ça, les gens attendent la fin du mandat de Kabila pour qu'il parte, pour qu'il y ait une alternance, pour qu'il y ait une alternative.
Alors face à ce ras-le-bol, la stratégie du pouvoir a été de diviser l'opposition et d'organiser un dialogue national avec la frange de l'opposition qui était prête à accepter un report de la présidentielle. Est-ce que cette stratégie a marché ou pas ?
La stratégie a marché dans le sens que l'opposition paraît aujourd'hui affaiblie, n'est pas capable d'être vraiment l'incarnation d'une alternative, disons. Il y a une forte pression d'en bas de la population, des quartiers populaires qui veulent un changement. Alors, je pense qu'il y a une perte d'autorité morale des acteurs institutionnels classiques, hein, les partis politiques, la société civile, dans une certaine mesure aussi les églises, et qu'il y a un climat d'autoprise en charge de la population. Et à l'heure actuelle, beaucoup de gens n'ont pas l'impression que les différents leaders d'opposition sont capables de dépasser, disons, les questions d'ego, et qui ne sont pas encore capables à se mettre ensemble dans une constellation unie et crédible.
Est-ce que les manifestations de ces 2 derniers jours ne prouvent pas que le dialogue national prôné par le pouvoir et une partie de l'opposition est rejeté par beaucoup de gens ?
Je crois que oui. Le président Kabila a convoqué ce dialogue il y a un an. Beaucoup de gens étaient très méfiants et croyaient que le président voulait imposer une nouvelle transition de quelques années, de 3 ans, pour entre-temps changer la constitution. Donc il y a beaucoup de méfiance autour de ça. À l'heure actuelle, il n'y a pas la confiance que le dialogue est le bon cadre, disons.
Et est-ce que les partis d'opposition qui boycottent ce dialogue depuis leur rencontre de Genval près de Bruxelles en juin dernier, est-ce qu'ils ne vont pas être encore confortés dans leur stratégie par les événements de ces 2 derniers jours ?
Les événements des derniers jours sont en train de polariser le paysage politique, je crois. Aussi par la réaction du gouvernement, bien sûr. Hein. On a besoin d'un dialogue un peu plus ou même beaucoup plus inclusif. Et pour le moment, on voit quand même une répression qui est assez forte. Il y a des menaces de couper l'Internet, de couper la communication. Il y a bien sûr tout d'abord les attaques sur les chefs-lieux des partis d'opposition. Donc tout ça va vraiment dans la direction opposée d'une solution portée par tout le monde, disons.
Dans le document que vous avez publié il y a 2 mois, vous avez écrit que le pouvoir formait des gangs de jeunes pour intimider l'opposition. Est-ce que les événements de ces derniers jours vous confirment dans cette analyse ?
Bon, cette analyse est basée sur une série de témoignages là-dessus. Effectivement, bien sûr, les événements récents sont une indication que c'est une réalité.
Et vous pensez peut-être à la mise à sac des quartiers généraux de l'opposition, non ?
Bien sûr, bien sûr, ouais.
Alors, la communauté internationale, notamment l'Union africaine et les pays occidentaux, ont cautionné le dialogue national entre le pouvoir et une frange de l'opposition. Était-ce le bon choix ou pas ?
Je pense que la communauté internationale n'avait pas beaucoup d'alternatives et qu'elle a essayé de faire une pression pour que ce dialogue serait aussi inclusif que possible. À l'heure actuelle, le groupe qui est effectivement autour de la table est trop limité pour désigner vraiment les contours d'une solution. Et donc, je comprends que différents pays, y compris la France, sont en train de plaider pour un dialogue beaucoup plus inclusif.
Mais avec les graves événements de ces deux derniers jours, il semble qu'on prenne le chemin inverse, non ?
Tout à fait. On est tombé dans des polarisations qui vont dans une très mauvaise direction. Je ne pense pas que détruire les chefs-lieux des partis d'opposition, je ne pense pas que la répression ou couper les voies de communication est une bonne piste pour arriver à une plus grande inclusivité. Je pense le contraire.
Chris Berwoud, merci.